La femme au collier de velours de Alexandre Dumas. Montage du texte, Pauline Ouvrard.
À Mannheim, ville allemande par excellence, calme et politique à la fois, un peu triste, ou plutôt un peu rêveuse, il y avait une place au caractère tout particulier, où s'élevaient à la fois l'église et le théâtre, tous deux de style Pompadour. C'est dans une chambre dont les fenêtres donnaient sur le portail de l'église que nous allons conduire nos lecteurs en leur faisant seulement observer que nous sommes à l'an de grâce, ou de disgrâce, 1793, au mois de mai. La chambre avait à la fois l'aspect d'un atelier, d'un magasin de musique et d'un cabinet de travail. Il y avait une palette, des pinceaux et un chevalet. Il y avait une guitare, une viole d'amour et un piano. Il y avait une plume, de l'encre et du papier. Le jeune homme qui vivait ici n'était ni un peintre, ni un poète, ni un musicien. C'était un tout bizarre, fantasque, bon et mauvais, brave et timide, actif et paresseux. C'était Ernest Théodore Guillaume Hoffmann. Il devait avoir 18 ans tout au plus. Il était petit de taille, maigre de corps, sauvage d'aspect. Ses longs cheveux noirs, quand il ne les écartait pas de la main, voilaient ses yeux. Son regard brillait, fixe et fauve. Il avait pour ami Zacharias Werner, qui pouvait avoir 3 ou 4 ans de plus que lui. C'était pour Hoffmann un véritable frère. Les deux jeunes gens avaient pris appétit au voyage et avaient résolu de visiter Paris. Hoffmann pour comparer la musique française à la musique italienne. Werner, libertin par tempérament, comptait bien profiter de cette étrange liberté de mœurs à laquelle on était arrivé en 1793 et dont un de ses amis, revenu depuis peu de Paris, lui avait fait une peinture bien séduisante. Il ne leur manquait qu'une chose, l'argent. Il leur était venu une idée, et comme cette idée leur était venue à tous deux à la fois, ils l'avaient prise pour une inspiration du ciel. L'idée, c'était d'aller au jeu et de risquer chacun les 5 frédérics d'or qu'ils possédaient. Werner tenta le premier la fortune et perdit en 5 coups ses 5 frédérics d'or. Hoffmann hasarda en tremblant son premier frédéric d'or et gagna. Les deux jeunes hommes revinrent ensemble chez Hoffmann, l'un riant, dansant, chantant, l'autre rêveur, presque sombre. Tous deux, au reste, décidèrent de partir le lendemain soir pour la France. Ils se séparèrent en s'embrassant. Le lendemain, Hoffmann se mit à faire ses préparatifs de voyage. Tout en allant, tout en venant, tout en époustant un habit, en pliant une chemise, en assortissant 2 mouchoirs, Hoffmann jeta les yeux dans la rue et demeura dans la pose où il était. Une jeune fille de 16 à 17 ans, charmante, étrangère bien certainement à la ville de Mannheim, puisque Hoffmann ne la connaissait pas, venait vers l'église. Hoffmann, dans ses rêves de poète, de peintre et de musicien, n'avait jamais rien vu de pareil. C'était quelque chose qui dépassait non seulement tout ce qu'il avait vu, mais encore tout ce qu'il espérait voir. On heurta à la porte. Hoffmann alla ouvrir.
Ah, c'est toi, Zacharias. Je ne pars plus. Pas dans ce moment-ci, du moins.
Mais pourquoi? Pour quelle raison? Qui t'empêche de partir?
Hoffmann entraîna vivement son ami vers la fenêtre.
Tiens, regarde, regarde.
Et, en effet, la jeune fille inconnue apparaissait en haut du portail, son livre de messe posé contre sa poitrine, sa tête baissée, modeste et pensive comme la Marguerite de Goethe.
Vois-tu?
Certainement que je vois.
Eh bien, qu'en dis-tu?
Je dis qu'il n'y a pas de femme au monde qui vaille qu'on lui sacrifie le voyage de Paris. Fût-ce la belle Antonia, fût-ce la fille du vieux Gottlieb Mühr, le nouveau chef d'orchestre du théâtre de Mannheim.
Tu la connais donc?
Certainement. Son père était chef d'orchestre au théâtre de Francfort.
Et tu peux me donner une lettre pour lui?
À merveille.
Mets-toi là, Zacharias, et écris.
Zacharias se mit à table et écrivit. « Hoffmann frappait à la porte de maître Gottlieb Mühr juste au moment où Zacharias Werner montait dans la diligence de Strasbourg. Ce fut le chef d'orchestre qui vint ouvrir en personne à Hoffmann. Il le conduisit dans un grand cabinet plein de partitions empilées et de feuilles de musique volantes. Sur une table étaient 10 ou 12 boîtes plus ou moins ornées, ayant toutes cette forme à laquelle un musicien ne se trompe pas, c'est-à-dire la forme d'un étui de violon. De ses doigts attachés d'encre, il prit la lettre que lui présentait Hoffmann.
Ah, Zacharias Werner, poète celui-là, mais joueur.
Puis, comme si la qualité corrigeait un peu le défaut, il ajouta
« Joueur, joueur, mais poète. Parti, n'est-ce pas, parti ? »
Il part, monsieur, en ce moment même.
Dieu le conduise. Mais il a bien fait de partir. Les voyages forment la jeunesse. Mozart, par exemple, Mozart a du bon. Mais pourquoi a-t-il du bon ? Parce qu'il a voyagé en Italie. La musique allemande, jeune homme, c'est la musique des hommes. Mais retenez bien ceci, la musique italienne, c'est la musique des dieux.
Maître Gottlieb, mon ami Zacharias Werner m'a parlé de votre bonté pour les jeunes gens. Et je suis musicien.
Ah, vous êtes musicien. Et qu'êtes-vous, compositeur ou instrumentiste ?
L'un et l'autre, Maître Gottlieb.
L'un et l'autre. Cela ne doute de rien, ces jeunes gens. Il faudra toute la vie d'un homme, de deux hommes, de trois hommes pour être seulement l'un ou l'autre. Voyons, jeune présomptueux, de quel instrument jouez-vous ?
De tout à peu près, mais l'instrument dont je me suis particulièrement occupé, c'est le violon.
Malheureux, sais-tu ce que c'est le violon ? Oh, oh, le violon ! Sais-tu que cet instrument cache sous sa simplicité, presque misérable, les plus inépuisables trésors d'harmonie qu'il soit possible à l'homme de boire à la coupe des dieux ? Mais tu prouves, en venant me voir, qu'il y a dans cette poitrine-là un cœur d'artiste. Aussi, c'est sur un Antonio Amati, sur l'aïeul, sur l'ancêtre de tous les violons qui ont été faits, c'est sur l'instrument qui sera la dot de ma fille Antonia que je veux t'entendre. C'est l'arc d'Ulysse, vois-tu, et qui pourra bander l'arc d'Ulysse est digne de Pénélope.
Au premier son que Hoffmann avait tiré de l'instrument, il avait tressailli, car il comprenait quel trésor d'harmonie on venait de mettre entre ses mains. Il passait du pianissimo au fortissimo, de la caresse à la menace, de l'éclair à la foudre. Il était sous l'influence d'une situation nouvelle, d'un état touchant à l'extase, quand tout à coup, sa main gauche s'affaissa sur les cordes. L'archer mourut dans sa main, ses yeux devinrent fixes et ardents. La porte venait de s'ouvrir, et dans la glace devant laquelle il jouait, Hoffmann avait vu apparaître la belle Antonia, la bouche entrouverte, la poitrine oppressée, les yeux humides. Elle avait 17 ans à peine, ses cheveux blonds, épais et légers à la fois, flottant au moindre vent comme une vapeur dorée, ombrageaient des yeux et des sourcils de velours noir. On eût dit à la fois une muse et une fée, la Lorelai de la ballade et la Béatrice de la Divine Comédie. La jeune fille s'avança lentement. Hoffmann ne savait s'il veillait ou dormait, s'il était sur la terre ou au ciel, si c'était une femme qui venait à lui ou un ange qui lui apparaissait. Tout à coup, quelque chose de doux, de suave, d'aérien passa dans l'air. C'était une vapeur, c'était une mélodie, c'était quelque chose de plus divin encore. C'était la voix d'Antonia. On comprend, d'après la façon dont Hoffmann avait été reçu chez maître Gottlieb, qu'il y revint le lendemain, le surlendemain et les jours suivants. Hoffmann était donc heureux, c'est-à-dire aussi heureux qu'il ait donné à une créature mortelle de l'être. Le soleil de la joie n'éclaire jamais entièrement le cœur d'un homme. Il y a toujours, sur certains points de ce cœur, une tache sombre qui rappelle à l'homme que le bonheur complet n'existe pas en ce monde. Hoffmann savait ce qui le rendait malheureux. C'était cette promesse faite à Zacharias Werner d'aller le rejoindre à Paris. C'était ce désir étrange de visiter la France. Un jour qu'assis près d'elle, Hoffmann était tombé dans une de ses rêveries ordinaires, Antonia, après l'avoir regardé longuement, lui prit les mains.
« Il faut y aller, mon ami. y aller? Et où cela?
En France, à Paris.
Et qui vous a dit, Antonia, cette secrète pensée de mon cœur que je n'ose m'avouer à moi-même?
Je me suis souvenue, voilà tout. La veille du jour où vous êtes venue voir mon père, Zacharias Werner y était venu et nous avait raconté votre projet de voyage, votre désir ardent de voir Paris. Vous m'avez dit ce qui vous avait empêché de partir. Mais il y a quelque chose de plus puissant que cet amour. C'est le désir d'aller en France, de rejoindre Zacharias, de voir Paris, enfin.
Antonia, tout est vrai dans ce que vous dites, hors un point. Il n'y a rien au monde de plus fort que mon amour. Mais il y a une voix qui m'appelle à Paris, une voix plus forte que ma volonté. Cette voix est celle de la destinée.
Soit, accomplissons votre destinée, mon ami. Vous partirez demain. Mais j'exige une chose, ou plutôt deux choses de vous. Faites-moi deux serments. Celui de me demeurer fidèle et celui de ne plus vous adonner au jeu. Jurez.
Je jure de renoncer au jeu.
Est-ce le seul serment que vous vouliez me faire, mon ami?
Oh non, attendez. Je jure de vous rester fidèle de cœur et d'esprit, de corps et d'âme.
Et sur quoi jurez-vous cela?
Sur ce que j'ai de plus cher, sur ce que j'ai de plus sacré, sur votre vie.
Merci, car si vous ne tenez pas votre serment, je mourrai.
Hoffmann tressaillit, un frisson passa par tout son corps.
Plus une parole, plus une seule. Je veux que celle dont se composait votre serment bruisse éternellement à mon oreille. Au revoir, mon ami. Au revoir.
Et, s'échappant, légère comme une ombre, la jeune fille laissa un médaillon dans la main de son amant. Le médaillon renfermait son portrait, tout resplendissant de jeunesse et de beauté. Le lendemain, Hoffmann prenait place dans la diligence pour Paris, en répétant
« Sois tranquille, Antonia. Oh non, je ne jouerai pas. Oh oui, je te serai fidèle. »
Il arriva devant Paris. C'était le soir, les barrières étaient fermées. Le temps était gris, rude, mêlé de brume et de verglas. Hoffmann fut arrêté par une main qui se posa doucement sur sa poitrine.
Où vas-tu comme cela, citoyen, avec tes belles bottes?
Je vais à Paris, citoyen.
Il ne se niera pas aristocrate, celui-là. A-t-il des mains et des pieds?
Vous êtes un bête, citoyen. Je suis patriote autant que vous, et je suis de plus un artiste.
Qu'es-tu venu faire à Paris?
Étudier la science et la liberté.
Et quoi encore?
Et la peinture. Savez-vous où je trouverai un bon gîte, mes amis?
Loge-toi du côté du quai aux fleurs.
Ce mot de fleur me plaît. Je m'y vois déjà installé, au quai aux fleurs. Par où y va-t-on?
Tu vas descendre droit à la rue de l'Enfer et tu arriveras au quai.
Et l'eau, c'est la Seine?
C'est la Seine.
Le quai aux fleurs borde la Seine, alors.
Tu connais Paris mieux que moi, citoyen allemand.
Merci. Adieu. Puis-je passer?
Va-t'en, citoyen. Tu nous gênes.
Il arriva au quai aux fleurs, lequel était parfaitement sombre et désert, ainsi que le sont les quais du Nord en hiver. Levant les yeux, il aperçut une grosse lanterne rouge, dans les vitres de laquelle tremblait un lumignon crasseux. Pris fait avec une hôtesse assez avenante, Hoffmann se trouva possesseur d'une chambre à coucher et d'un cabinet. Il se coucha dans un lit assez humide. Mais tout lit est un lit pour un voyageur de 18 ans. Hoffmann gagna la rue Saint-Denis dans laquelle il s'enfonça. Rue Saint-Honoré, il entendit un galop de chevaux et reconnut des gendarmes. Puis, derrière eux, dans la première brume du soir, il entrevit un pêle-mêle affreux de haillons, de bras levés, de piques brandies et d'yeux flamboyants. Au-dessus de tout cela, une charrette. Sur la charrette était une femme vêtue de blanc. Des cris s'exhalaient de ses lèvres, de son âme et de tout son corps. La charrette arriva au milieu de son escorte de bandits et de femmes hideuses, ses satellites ordinaires. Mais, chose étrange, toute cette lie ne bouillonnait pas, tous ces reptiles ne coassaient pas. La victime seule se tordait entre les bras de deux hommes et criait au ciel, à la terre, aux hommes et aux choses.
Pauvre Du Barry, te voilà donc.
Madame Du Barry, c'est elle? C'est elle qui passe là sur cette charrette?
Oui, monsieur.
La pauvre Du Barry se tenait droite et cramponnée au col mouvant de la charrette. Ses cheveux châtains, l'orgueil de sa beauté, avaient été coupés sur la nuque, mais retombaient sur les tempes en longues mèches trempées de sueur. Belle, avec ses grands yeux hagards, avec sa petite bouche, trop petite pour les cris affreux qu'elle poussait, la malheureuse femme secouait de temps en temps la tête par un mouvement compulsif, pour dégager son visage des cheveux qui le masquaient. Quand elle passa devant Hoffmann, elle cria
« Au secours ! Sauvez-moi ! Je n'ai pas fait de mal !»
et faillit renverser l'aide du bourreau qui la soutenait. Hoffmann ne sentait plus son cœur dans sa poitrine. Il se mit à courir après la charrette, comme les autres. Ombre nouvelle ajoutée à cette procession de spectres qui faisait la dernière escorte d'une favorite royale. Il s'arrêta. La charrette venait d'atteindre la place de la Révolution. Dans l'ombre, épaissie par une pluie froide, Hoffmann ne distinguait plus que deux silhouettes. L'une, blanche, c'était celle de la victime. L'autre, rouge, c'était l'échafaud. Il vit des bourreaux traîner la robe blanche sur l'escalier. Il vit cette forme tourmentée se cambrer pour la résistance. Puis, soudain, au milieu de ces horribles cris, la pauvre femme perdit l'équilibre et tomba sur la bascule. Le couteau tomba, lançant un éclair fauve. Et ce fut tout. Hoffmann était l'homme des transitions brusques. Après la place de la Révolution et le peuple tumultueux groupé autour d'un échafaud, le ciel sombre et le sang, il lui fallait l'éclat des lustres, la foule joyeuse, les fleurs, la vie, enfin. Il s'achemina donc vers l'opéra. On y jouait le Jugement de Paris, ballet pantomime en trois actes. L'ombre de Madame Du Barry ne cessait de passer dans le souvenir du jeune homme. Alors il secoua la tête comme pour en chasser violemment les sombres réalités et entra dans le théâtre. La salle était comble et ruisselante de fleurs, de pierreries, de soie et d'épaules nues. Hoffmann prit une place à l'orchestre. Il regarda toutes les femmes qui l'entouraient, toutes ses blanches épaules, ses bras souples, ses mains jouant avec les branches d'un éventail, et il se sourit à lui-même en prononçant le nom d'Antonia, comme si ce nom eût suffi pour faire disparaître toute comparaison entre celles qui le portaient et les femmes qui se trouvaient là. Hoffmann glissa doucement la main dans sa poitrine, y saisit le médaillon, comme une fille craintive saisit un oiseau dans un nid, amena doucement le portrait de la jeune fille à la hauteur de ses yeux, l'adora un instant du regard, puis le posa pieusement sur ses lèvres. Puis il ouvrit ses deux oreilles à la musique. Il l'entendait deux fois, vu qu'un voisin, habitué sans doute de l'opéra, accompagnait d'une petite voix en demi-ton de fausset et avec une exactitude parfaite les différentes mélodies. Ses ongles longs et effilés frappaient en mesure avec une charmante dextérité sur la tabatière qu'il tenait dans sa main gauche. En vérité, le personnage méritait l'examen. Figurez-vous un visage de forme ovale, au front poli comme l'ivoire, aux yeux bleus comme le saphir, sans douceur, sans dureté, à la bouche petite, aux lèvres entrouvertes sur des dents de la même couleur cireuse que la peau. Tels étaient les traits caractéristiques du voisin d'Hoffmann. Le petit homme regarda Hoffmann, lui sourit et continua de fixer les yeux sur le même point et d'accompagner l'orchestre.
C'est étrange, j'aurais parié qu'il ne vivait pas.
Il jeta de nouveau les yeux sur les mains de ce personnage. Sur la tabatière avec laquelle jouaient ses mains, tabatière d'ébène, brillait une petite tête de mort en diamant. L'homme, ainsi examiné, voyant que sa tabatière était d'un si grand intérêt pour son voisin, la lui passa silencieusement afin qu'il pût la regarder tout à son aise. Hoffmann la prit, la tourna et la retourna 20 fois, puis il l'ouvrit. Il y avait du tabac dedans. « Voyons maintenant s'il parle ?» se demanda Hoffmann, et se tournant vers son voisin, il lui dit
« Je vous prie d'excuser mon indiscrétion, mais cette petite tête de mort en diamant m'avait étonné tout d'abord, car c'est un ornement rare sur une boîte à tabac. »«
En effet, je crois que c'est la seule qu'on ait faite. »
L'inconnu avait répliqué d'une voix métallique, et dont les sons imitaient assez le bruit des pièces qu'on empile les unes sur les autres.
« Elle vient d'héritiers reconnaissants dont j'avais soigné le père. »
« Vous êtes médecin ?»«
Oui, monsieur. » »«
Et vous aviez guéri le père de ces jeunes gens ?»«
Au contraire, monsieur. Nous avons eu le malheur de le perdre. »«
Ah, je m'explique le mot reconnaissance.
» On donna le signal du second acte.
« Ah, nous allons voir Arsène. »«
Qui est-ce, Arsène ?»«
Ah, ça, vous ne connaissez donc rien, jeune homme. Arsène, c'est tout dire. D'ailleurs, vous allez la voir. »
La toile se leva. Le théâtre représentait un berceau de fleurs et de verdure que traversait un ruisseau qui prenait sa source au pied d'un rocher. Hoffmann laissa tomber sa tête dans sa main.
« Qu'est-ce que je fais ici, moi ?»
Et il allait peut-être s'en aller quand, en relevant la tête, il vit sur scène une danseuse qui n'avait pas paru au premier acte et que la salle entière regardait danser sans exhaler un souffle.
« Oh !» Que cette femme est belle!
Hoffmann s'était écrié assez haut pour que ses voisins et la danseuse même l'entendissent. Celle qui avait éveillé cette admiration subite regarda le jeune homme et Hoffmann crut qu'elle le remerciait du regard. Il rougit et tressaillit comme s'il eût été touché de l'étincelle électrique. Arsène était réellement une bien admirable créature et d'une beauté qui n'avait rien de la beauté traditionnelle. Elle était grande, admirablement bien faite, et d'une pâleur transparente sous le rouge qui couvrait ses joues. Ses pieds étaient tout petits, et quand elle retombait sur le parquet du théâtre, on eût dit que la pointe de son pied reposait sur un nuage. Dans ses cheveux noirs et luisants, avec des reflets bleus, s'enroulaient de larges feuilles d'acanthe et se suspendaient des grappes de raisin dont l'ombre courait sur ses épaules nues. Elle portait, sans raison aucune, un petit collier de velours noir fermé par un objet qui paraissait avoir la forme d'une boucle et qui, fait en diamant, jetait des feux éblouissants. Le médecin regardait cette femme de tous ses yeux et son âme, l'âme qu'il pouvait avoir, semblait suspendue au vol de la jeune femme. Alors Hoffmann put remarquer une chose curieuse. Qu'elle allât à droite, à gauche, en arrière ou en avant, jamais les yeux d'Arsène ne quittaient la ligne des yeux du docteur. Bien plus, Hoffmann voyait très distinctement les rayons que jetait la boucle du collier d'Arsène et ceux que jetait la tête de mort du docteur se rencontrer à mi-chemin dans une ligne droite, se repousser et jaillir en une même gerbe, faite de milliers d'étincelles blanches, rouges et or.
Cette femme a un amant sans doute.
Oui.
Qu'elle aime.
On le dit.
Et il est riche.
Très riche.
Qui est-ce?
Regardez à gauche, à l'avant-scène du rez-de-chaussée.
Dans cette avant-scène, il n'y avait qu'un homme. Mais cet homme, accroupi comme un lion sur la balustrade de velours, semblait à lui seul la remplir.
Comment s'appelle-t-il?
Vous ne le connaissez pas?
Mais non, je suis arrivé hier seulement.
Eh bien... C'est Danton. C'est son amant. Il est d'une jalousie féroce.
Hoffmann avait reporté les yeux sur Arsène, dont la danse silencieuse avait une apparence fantastique.
Encore un renseignement, monsieur. Quelle forme a l'agrafe qui ferme son collier?
C'est une guillotine. C'est Danton qui la lui a donnée.
Une guillotine? Une guillotine au cou d'une danseuse?
Il en était à cet état d'exaltation où l'on croit respirer du feu, où l'on craint que les sens ne fassent éclater le corps.
Assez, assez.
L'hallucination était telle que l'esprit d'Hoffmann mêlait à cette scène le souvenir de la place de la Révolution. Tantôt, il croyait voir Madame du Barry, pâle et la tête tranchée, danser à la place d'Arsène. Et tantôt, Arsène dansait au pied de la guillotine dans les mains du bourreau. Il se faisait dans l'imagination exaltée du jeune homme un mélange de fleurs et de sang, de danse et d'agonie, de vie et de mort. Il saisit le médaillon d'Antonia, son seul refuge, et le porta à ses lèvres. Mais à peine avait-il fait ce mouvement qu'il entendit le ricanement aigu de son voisin qui le regardait d'un air railleur. Alors, Hoffmann replaça en rougissant le médaillon où il l'avait pris et se leva comme mu par un ressort. Et, semblable à un fou, il quitta l'orchestre, marchant sur les pieds, heurtant les jambes des tranquilles spectateurs. L'élan d'Hoffmann ne le poussa pas bien loin. Sa poitrine était haletante, son front ruisselant de sueur. Il passa la main gauche sur son front et respira. En ce moment, on lui toucha l'épaule.
Oh, pardieu, c'est lui !
Il se retourna et laissa échapper un cri. C'était Zacharias Werner ! Les deux jeunes gens se jetèrent dans les bras l'un de l'autre.
Et que faisais-tu là ?
Où vas-tu ?
Je suis arrivé hier. J'ai vu guillotiner Madame du Barry et pour me distraire, je suis venu à l'opéra.
Moi, je vois guillotiner tous les jours 20 ou 25 personnes. Et pour me distraire, je vais au jeu. Viens-tu avec moi ?
Non, merci.
Tu as tort. Là où je vais, tous les plaisirs sont réunis. Des femmes charmantes, des soupers délicieux, un jeu féroce.
Impossible. J'ai promis. Mieux que cela, j'ai juré.
À qui ?
À Antonia. Je l'aime, mon ami. Je l'adore.
Ah, je comprends. C'est cela qui t'a retardé. Et tu lui as juré ?
Je lui ai juré de ne pas jouer. Et de lui rester fidèle.
Alors, il ne faut pas venir au 113.
Le 113 ?
C'est la maison dont je te parlais. Moi, comme je n'ai rien juré, j'y vais. Adieu, Théodore.
Adieu, Zacharias.
7 heures sonnèrent. Et enlevé comme malgré lui, Hoffmann arriva à la porte de l'opéra. Mais l'aspect de la salle était bien changé. D'abord, elle n'était qu'à moitié pleine. Puis, à la place de ces femmes charmantes, de ces hommes élégants qu'il avait cru revoir, il ne vit que des bonnets ronds et rouges, le tout orné de cocardes nationales, des couleurs sombres dans les vêtements, un nuage triste sur les figures. Enfin, à l'avant-scène, un trou à peine éclairé, une ouverture sombre et vide. La caverne, toujours, mais plus de lion. Le premier acte fut joué, sans que Hoffmann fît attention à l'orchestre ou s'occupât des acteurs. La toile se leva sur le second acte et le ballet commença. Toute l'intelligence, toute l'âme, tout le cœur du jeune homme étaient suspendus. Tout à coup, Hoffmann jeta un cri. Ce n'était plus Arsène qui remplissait le rôle de Flore. La femme qui apparaissait était une femme comme toutes les femmes. Hoffmann s'affaissa sur lui-même en poussant un profond soupir et regarda autour de lui. Le petit homme était à sa place. Seulement, il n'avait plus ses boucles, ses bagues précieuses et sa tabatière à tête de mort en diamant. Ses boucles étaient en cuivre, ses bagues en argent doré, sa tabatière en argent mat.
Oh, monsieur !
Dites citoyen, mon jeune ami, et même tutoyez-moi, où vous me ferez couper la tête et à vous aussi.
Mais où est-elle donc ?
Ah, où est-elle ? Il paraît que son tigre, qui ne la quitte pas des yeux, s'est aperçu qu'avant-hier, elle a correspondu par signe avec un jeune homme. De sorte qu'il a rompu l'engagement d'Arsène et qu'Arsène n'est plus au théâtre.
Mon Dieu ! Voilà donc pourquoi cette salle est si triste. Voilà pourquoi il n'y a plus de fleurs, plus de diamants, plus de bijoux. Voilà pourquoi vous n'avez plus vos boucles, vos bagues, votre tabatière en diamant.
Mais que me dites-vous donc là ? Et où avez-vous vu une salle telle que vous dites ? Où avez-vous vu des bagues en diamant, des tabatières en diamant ? Il y a 2 ans que les fleurs ne fleurissent plus, que les diamants sont tournés en assignats et que les bijoux sont fondus sur l'autel de la patrie.
Oh, c'est impossible, je vous dis qu'avant-hier...
Et moi, jeune homme, je vous dis que vous l'aimez, jeune homme, et que vous avez vu la salle à travers le prisme de votre amour.
Oh, mon Dieu, tout cela est-il vrai ? Et suis-je donc si près de devenir fou ?
8 ou 10 jours s'étaient écoulés depuis l'aventure d'Hoffmann à l'opéra, et par conséquent depuis la disparition de la belle danseuse. Hoffmann, depuis une demi-heure, se trouvait dans un estaminet, s'occupant de toute la force de ses poumons à établir autour de lui une enceinte de fumée qui le séparait de ses voisins, quand il lui sembla, dans cette vapeur, distinguer comme une forme humaine. Il écarta ses paupières avec peine, et, en face de lui, assis sur un tabouret, il reconnut son voisin de l'opéra, et cela d'autant mieux que le fantastique docteur avait, ou plutôt semblait avoir, ses bagues en diamant au doigt et sa tête de mort sur sa tabatière.
Oh, c'est vous, cher docteur ? Que je suis content de vous voir.
Alors pourquoi ne m'avez-vous pas cherché ?
Est-ce que je savais votre adresse ?
Le docteur à la tête de mort. Tout le monde me connaît sous ce nom-là. Puis il y avait un endroit où vous étiez toujours sûr de me trouver.
Où cela ?
À l'opéra. Je suis médecin de l'opéra.
Oh, l'opéra, je n'y retourne plus.
Depuis que ce n'est plus Arsène qui remplit le rôle de Flore ?
Si je ne la revois pas, ou je mourrai de son absence, ou je deviendrai fou.
Il faut pas devenir fou, il faut pas mourir. À la folie, il y a peu de remède, à la mort, il n'y en a pas du tout.
Que faut-il faire alors ?
Dame, il faut la revoir. Vous êtes peintre, m'avez-vous dit ?
Oui, peintre, musicien, poète.
Nous n'avons besoin que de la peinture pour le moment. Arsène m'a chargé de lui trouver un peintre.
Pourquoi faire ?
Pourquoi cherche-t-on un peintre, pardieu ? Pour lui faire son portrait.
En sortant de l'estaminet, le docteur frappa ses mains sèches l'une contre l'autre, et à ce bruit, pareil à celui qu'eussent fait deux mains de squelette, une voiture tendue de noir, attelée de deux chevaux noirs, accourut. Où stationnait-elle ? D'où était-elle sortie ? C'eût été aussi difficile à Hoffmann de le dire qu'il eût été difficile à Cendrillon de dire d'où venait le char dans lequel elle se rendait au bal du prince Mirliflore. La voiture se mit à rouler sans bruit, rapide et silencieuse. Au bout de 10 minutes, elle s'arrêta en face d'un charmant hôtel situé rue de Hanovre. On monta au premier, et de l'antichambre on passa dans le boudoir. Le boudoir était tendu de cachemire. Au fond, dans un encadrement, était un lit bas faisant canapé. C'était là qu'Arsène avait donné l'ordre de faire attendre.
« Maintenant, jeune homme, vous voilà introduit. » C'est à vous de vous conduire de façon convenable. Il va sans dire que si l'amant en titre vous surprenait ici, vous seriez un homme perdu.
Oh, que je la revoie seulement et...
La parole s'éteignit sur les lèvres d'Hoffmann. Une porte cachée dans la boiserie venait de s'ouvrir. Et, derrière une glace tournante, apparaissait Arsène. Véritable divinité du temple dans lequel elle daignait se faire visible à son adorateur.
C'est vous, citoyen, qui vous chargez de faire mon portrait ?
Oui, madame. Et le docteur a bien voulu se charger de répondre de moi.
Hoffmann chercha autour de lui, mais le docteur avait disparu.
Eh bien ?
Que cherchez-vous, citoyen ?
Mais, madame, je cherche le docteur, la personne qui m'a introduit ici.
Allons, le docteur est à ses affaires. Occupons-nous des nôtres.
Madame, je suis à vos ordres. Je suis l'homme le plus heureux du monde d'avoir été choisi pour une telle faveur.
Et il appuya sa main sur son cœur. Tout à coup, il chancela et pâlit. Il avait senti entre sa poitrine et sa chemise le médaillon d'Antonia.
Commençons.
Et elle frappa sur un timbre. Une femme de chambre entra, apportant du raisin et une peau de tigre. Puis, tirant sur les deux ou trois épingles qui soutenaient sa coiffure et secouant la tête, Arsène s'enveloppa d'un flot de cheveux noirs qui tomba en cascade sur son épaule, rebondit sur ses hanches et s'épandit, épais et onduleux, jusque sur le tapis. Hoffmann jeta un cri d'admiration.
Oh, je n'ai jamais vu de pareils cheveux.
Aidez-moi un peu à poser cette coiffure. Je me fie beaucoup pour m'embellir à la fantaisie du peintre.
Et vous avez raison. Mon Dieu, que vous allez être belle.
Arsène détacha en souriant son manteau de pourpre. Il tomba aux pieds de la belle grecque.
Oh, croyez-vous que cette peau de tigre fasse bien sur cette longue robe de mousseline ? Moi, je ne crois pas. Il veut une vraie bacchante, comme sur les tableaux.
Et, en disant cela, elle avait dénoué le ruban de sa taille et ouvert l'agrafe en son col, de sorte que la robe glissait le long de son beau corps, qu'elle laissait nu, au fur et à mesure qu'elle descendait des épaules aux pieds.
Oh, ce n'est pas une mortelle, c'est une déesse.
Il approcha, chancelant, ivre, ébloui, prit la peau de tigre, agrafa ses ongles d'or sur l'épaule de la bacchante et la fit coucher sur le lit de cachemire rouge.
Belle, belle, belle.
L'amant l'emporta sur le peintre. Il tomba à genoux et d'un mouvement rapide comme la pensée, prit la main d'Arsène et la couvrit de baisers. Arsène retira sa main avec plus d'étonnement que de colère.
Eh bien, que faites-vous donc ?
Rien, rien, pardonnez-moi, je deviens fou.
Et, imprimant une profonde secousse à sa volonté, Hoffmann posa sa toile sur le chevalet, prit sa palette, ses pinceaux, et commença d'esquisser l'enivrant tableau qu'il avait sous les yeux. Mais, au même instant, la porte s'ouvrit et la servante se précipita dans le boudoir en criant
« Lui, lui, lui !»
Hoffmann, poussé par les deux femmes, se trouva lancé hors du boudoir, dont la porte se referma derrière lui. Et sans savoir comment il était arrivé là, il se trouva dans la rue. Ce qui ajoutait l'humiliation à la douleur d'Hoffmann, c'est qu'il n'avait pas, c'était évident, été appelé chez Arsène comme un homme qu'elle avait remarqué à l'opéra, mais purement et simplement comme un peintre, comme une machine à portrait, un miroir qui réfléchit les corps qu'on lui présente. N'était-ce pas folie pour lui, étudiant allemand venu à Paris avec 300 ou 400 thalers, d'aspirer à la danseuse à la mode, à la fille entretenue par le prodigue et voluptueux Danton? Que Hoffmann ait plus d'argent que Danton, et ce serait Danton que l'on mettrait à la porte lorsque Hoffmann arriverait. Le singulier sentiment qu'il éprouvait pour Arsène, physique, attractif, et dans lequel le cœur n'était pour rien, s'était changé en un profond accablement. 8 jours s'écoulèrent ainsi. Le 8e jour, Hoffmann quitta l'estaminet de la rue de la Monnaie 1 heure plus tôt que de coutume, et gagna machinalement la rue Saint-Honoré. À peine y fut-il qu'il s'aperçut qu'un grand mouvement se faisait du côté du cimetière des Innocents et allait s'approchant vers la place du Palais-Royal. Il reconnut le même bruit, la même rumeur qu'il avait déjà frappée lors de l'exécution de Madame du Barry. En effet, c'étaient les charrettes de la conciergerie qui, chargées de condamnés, se rendaient à la place de la Révolution. Il tourna le dos à la rue, ferma les yeux et se boucha les oreilles, car les cris de Madame du Barry retentissaient encore au fond de son cœur. Puis, quand il supposa que les charrettes étaient passées, il se retourna et vit, à son grand étonnement, son ami Zacharias Werner.
Tiens, c'est toi ? Où étais-tu ?
Là ? Mais les yeux fermés pour ne pas voir ces malheureux.
Tu as eu tort, tu es peintre. Et ce que tu eusses vu, tu fournis le sujet d'un merveilleux tableau. Il y avait cette femme, une merveille, un cou, des épaules, des cheveux, coupés par derrière, c'est vrai. Mais de chaque côté, tombant jusqu'à terre.
Écoute, j'ai vu tout ce que l'on peut voir de mieux. J'ai vu Madame du Barry et je n'ai pas besoin d'en voir d'autres. Si je reste à Paris, mon cher Werner, je deviendrai fou.
Tu deviendras fou partout où tu seras, mon cher Hoffmann. En attendant, dis-moi quelle chose te rend fou.
Oh, mon cher Werner, je suis amoureux.
D'Antonia, je sais cela, tu me l'as dit.
Non, Antonia, c'est autre chose. Je l'aime.
Diable, la distinction est subtile. Conte-moi cela.
Hoffmann raconta à Werner tout ce qui lui était arrivé depuis l'opéra, jusqu'au moment où il avait été poussé par les deux femmes hors du boudoir.
Eh bien, je me demande ce qu'il y a de désespérant dans tout cela.
Il y a, mon cher, que maintenant j'ai compris qu'on ne peut avoir cette femme qu'à prix d'argent, et que j'ai perdu tout espoir. Je n'aurai jamais 500 louis à jeter à ses pieds.
Et pourquoi ne les aurais-tu pas ? Je les ai bien eus, moi. 500 louis, 1000 louis, 2000 louis.
Et où veux-tu que je les prenne ?
Mais dans l'Eldorado dont je t'ai parlé, mon cher. À la source du pactole.
Oh non, non, jamais.
Sois tranquille, Antonia. Oh non, je ne jouerai pas. Oh oui, je te serai fidèle.
Jamais je ne jouerai. J'ai juré.
Tu lui as bien juré de lui être fidèle.
Hoffmann poussa un long soupir et pressa le médaillon contre son cœur.
Je vais voir une maîtresse à moi. Une dame de la Comédie Française qui m'honore de ses bontés et que je gratifie de la moitié de mes bénéfices. N'oublie pas le numéro de la banque, c'est le 113.
Tu me l'avais déjà dit et je n'avais pas oublié.
Oh, ce numéro 113, avec son chiffre ardent, comme il appelait Hoffmann, comme il le guidait, phare infernal, vers cet abîme au fond duquel hurle le vertige en se roulant sur une couche d'or. Courant, sans s'arrêter, Hoffmann gagna le quai aux fleurs, monta dans sa chambre, prit les 300 thalers qui lui restaient et, sans se donner le temps de réfléchir, sauta dans une voiture en criant « Au palais Égalité !» Au palais royal, qu'on appelait à l'époque le palais Égalité, le lieu le plus fréquenté était naturellement celui où se tenait le jeu. C'était le numéro 113 qui jetait le plus de lumière avec sa lanterne rouge, œil immense de ce cyclope ivre.
Faites vos jeux !
Hoffmann était joueur, nous le savons. Mais cette fois, ce n'était pas pour le jeu, c'était pour l'argent qu'il venait.
100 thalers au 26.
Le croupier examina la monnaie allemande.
Allez changer. Nous ne prenons que de l'argent français.
Hoffmann descendit comme un fou, entra chez un changeur qui se trouvait justement être un Allemand et changea ses 300 thalers contre de l'or, c'est-à-dire contre 40 louis environ. Puis il retourna en courant vers la table en s'en tenant, avec cette incroyable superstition des joueurs, au numéro qu'il avait d'abord choisi par hasard.
15 louis au 26.
Rien ne va plus.
La bille tourna. Ce fut le 30 qui sortit. Il se rejeta en arrière, cachant sa tête dans ses deux mains. Non seulement il avait perdu, mais il n'avait plus un denier, ni sur lui, ni chez lui. Il tâta et fouilla ses poches. Elles étaient bien vides. Mais il sentit quelque chose de rond, comme un écu sur sa poitrine, et le saisit brusquement. C'était le médaillon d'Antonia qu'il avait oublié.
Je suis sauvé.
Sans dire une syllabe, il quitta la salle de jeu. Pendant qu'il descendait l'escalier, bien des pensées, bien des pressentiments bourdonnaient autour de lui. Mais il se fit sourd à toutes ces rumeurs vagues et entra brusquement chez le changeur.
Monsieur, j'ai pensé qu'à titre de compatriote, vous voudriez bien me rendre un service.
Lequel ?
C'est de me prêter 3 louis sur ce médaillon d'or.
N'aimeriez-vous pas mieux le vendre ?
Oh non, c'est bien assez de l'engager. Je vous prierai même, monsieur, de bien me garder ce médaillon avec le plus grand soin, car j'y tiens plus qu'à ma vie, et je viendrai le reprendre demain.
Alors je vais vous prêter 3 louis, monsieur.
Le joueur est si près d'être sacrilège que Hoffmann, en jetant sa première pièce d'or sur le numéro 26, prononça le nom d'Antonia. Quelque chose lui disait qu'il allait gagner. Le 26 sortit. Hoffmann, rayonnant, ramassa 36 louis. Il laissa 33 louis sur le même numéro, et le même numéro sortit. C'était donc 36 fois 33 louis qu'il gagnait, c'est-à-dire 1188 louis, c'est-à-dire plus de 25 000 francs. Alors Hoffmann joua au hasard à travers un éblouissement sans fin. L'or coulait devant lui de la main des croupiers comme le sang d'une large blessure. Enfin, ramassant tout l'or qu'il avait devant lui, quand il crut en avoir assez, il s'enfuit, laissant plein d'admiration et d'envie tous ceux qui se trouvaient là, et courut dans la direction de la maison d'Arsène. Il frappa à la porte d'Arsène comme un maître qui rentre chez lui. La porte s'ouvrit.
Qui est là ?
Hoffmann ne répondit pas.
Où allez-vous, citoyen ?
Je vais chez Mademoiselle Arsène.
Mademoiselle Arsène n'est plus ici, monsieur.
Comment ? Arsène n'est plus ici ?
Vous ne savez donc pas la nouvelle ? Monsieur Danton a été arrêté.
Quand ?
Hier. C'est monsieur Robespierre qui a fait cela. Quel grand homme que le citoyen Robespierre. Mademoiselle Arsène a été obligée de se sauver. Comme maîtresse de Danton, elle aurait pu être compromise dans toute cette affaire.
C'est juste. Mais comment s'est-elle sauvée ?
Comment se sauve quand on a peur d'avoir le cou coupé, droit devant soi ?
Hoffmann se mit donc, lui aussi, à marcher tout droit devant lui, faisant résonner le pavé des rues mornes sous le talon de ses bottes, et marchant tout éveillé dans un rêve douloureux. Il se dirigeait droit vers la place de la Révolution, où il avait juré de ne jamais plus revenir. Il marchait vers la guillotine comme attiré par une force magnétique. Le vent sifflait dans les planches. Hoffmann croisa ses mains sur sa poitrine et regarda. Il lui sembla, au milieu de ses pensées, qu'une plainte humaine se mêlait aux plaintes du vent. Hoffmann regarda autour de lui, et ne vit personne.
On dirait une voix de femme. Et on dirait que cette voix sort de sous l'échafaud.
Il commença à faire le tour de la guillotine. Comme il passait devant le terrible escalier, son pied heurta quelque chose. Il étendit les mains et toucha un être accroupi sur les premières marches.
Qui êtes-vous ? Vous qui dormez la nuit près d'un échafaud ?
La femme ne bougeait pas. Et les coudes appuyés sur les genoux, elle reposait sa tête sur ses mains. Malgré le froid de la nuit, elle avait les épaules presque entièrement nues. Et Hoffmann put voir une ligne qui cerclait son cou blanc. Cette ligne, c'était un collier de velours.
Arsène ?
Eh bien oui, Arsène.
Hoffmann recula, épouvanté. Malgré la voix, malgré le visage, il doutait encore. Mais, relevant la tête, Arsène laissa tomber ses mains sur ses genoux, dévoilant l'étrange agrafe de diamant qui étincelait dans la nuit.
Arsène ! Arsène, que faites-vous ici à cette heure, les épaules nues ?
Il a été arrêté hier. On est venu pour m'arrêter aussi. Je me suis sauvée comme j'étais et cette nuit je suis venue ici.
Venez avec moi, je suis riche, j'ai de l'or.
L'œil de la danseuse jeta un éclair.
Mais où voulez-vous m'emmener ?
En effet, où donc Hoffmann allait-il conduire cette femme de luxe et de sensualité, habituée à fouler des tapis de Perse et à se rouler dans des cachemires d'Inde ?
Où ? En effet, je ne connais point Paris.
Suivez-moi.
Et, d'une démarche raide et automatique, qui n'avait rien de commun avec cette souplesse ravissante que Hoffmann avait admirée dans la danseuse, elle se mit à marcher devant lui. Elle s'arrêta devant un magnifique hôtel et frappa. Le garçon ouvrit la porte de la chambre et en un instant, la cheminée s'enflamma et les bougies s'allumèrent.
Le meilleur souper qu'on pourra nous donner, garçon.
La porte refermée sur l'officieux, il jeta avidement les yeux sur Arsène. Elle s'était accroupie au coin de l'âtre, dans la même position où Hoffmann l'avait trouvée devant la guillotine. Les coudes sur les genoux, elle semblait occupée à maintenir de ses deux mains sa tête droite sur ses épaules.
Arsène, Arsène, je t'ai dit que j'étais riche, n'est-ce pas ? Regarde, et tu verras que je n'ai pas menti.
Hoffmann commença par retourner son chapeau. Le chapeau était plein de louis, et ils ruisselèrent sur la table. Puis, après le chapeau, il vida ses poches, qui dégorgèrent l'immense butin qu'il venait de faire au jeu. À ce bruit, Arsène sembla se ranimer. Sa lèvre pâle souriait, ses yeux vitreux s'éclaircissaient, lançant des rayons qui se croisaient avec ceux de l'or. Elle plongea ses mains pâles dans le monceau de métal.
« Allons, viens souper. Et puis après, tout à ton aise, Danaé, tu te baigneras dans l'or si tu veux. »«
J'ai froid. »
Hoffmann regarda autour de lui. Il arracha un rideau de la fenêtre et le donna à Arsène. Le rideau sembla se draper de lui-même, comme les plis d'un manteau antique. Et sous cette draperie rouge, la tête pâle d'Arsène redoubla de caractère. Hoffmann avait presque peur. Il voulut la faire manger, mais elle refusa.
« Je ne pourrai rien avaler. »«
Buvons alors. »
Elle tendit son verre. Hoffmann avait à la fois faim et soif. Il but surtout. Il sentait qu'il avait besoin de hardiesse. Quelque chose de glacé émanait du corps de la belle convive. Tout à coup, un tison roula du feu. Il ne s'arrêta qu'en rencontrant le pied nu d'Arsène. Hoffmann jeta un cri.
« Arsène ! Arsène, prenez garde !»«
À quoi ?»«
Ce tison ! Ce tison qui touche votre pied !»«
Ôtez-le !»
Hoffmann se baissa, enleva le tison, et se rendit compte avec effroi que ce n'était pas la braise qui avait brûlé le pied de la jeune fille, mais le pied qui avait éteint la braise. La seconde bouteille fut vidée. Cependant, Hoffmann sentait que l'ivresse du vin ne lui suffisait pas. Il s'élança vers le piano. Sous ses doigts naquit tout naturellement l'air du Jugement de Paris sur lequel Arsène dansait à l'opéra. Elle se leva aux premiers accords, rejeta loin d'elle le rideau de damas rouge, et, chose étrange, sans que l'on sache par quel moyen, elle reparut avec le costume de Flore, ruisselant de fleurs, vaporeux de gaz, frissonnant de volupté. Elle avait pris pour théâtre tout l'espace qui séparait le piano de l'alcôve, et sur le fond rouge du rideau, elle se détachait, comme une apparition de l'enfer. Arsène tourna sur elle-même d'abord, puis peu à peu elle se rapprocha d'Hoffmann. Hoffmann, haletant, la sentait venir, se rapprocher. Il ressentait à la fois le désir et l'effroi. Enfin, Arsène étendit la main et du bout des doigts l'effleura. Hoffmann bondit, comme si l'étincelle électrique l'eût touché, s'élança sur la trace de la danseuse, l'enlaça dans ses bras, pressant contre son cœur ce corps qui avait repris son élasticité, aspirant les regards de ses yeux, le souffle de sa bouche, tournant dans une atmosphère de flamme qui, pénétrant jusqu'au fond de la poitrine des deux danseurs, finit par les jeter, haletant, sur le lit qui les attendait. Hoffmann se réveilla le lendemain matin et reconnut, couchée près de lui, non plus la belle danseuse de l'opéra, mais la pâle jeune fille de la place de la Révolution. Arsène était sans mouvement, les yeux fermés. Il prit sa main était glacée. Il écouta les battements de son cœur ne battait plus. Il s'élança vers la porte.
À l'aide ! Au secours !
Hoffmann jeta un cri, en reconnaissant le médecin de l'opéra, qui montait les escaliers dans sa direction.
C'est vous, mon cher monsieur ? Qui est-il donc ? Pourquoi tout ce bruit ?
Hoffmann l'entraîna vers la chambre.
Tenez.
C'est bien à vous, jeune homme, d'avoir racheté ce corps afin qu'il ne pourrit pas dans la fosse commune. Très bien, très bien.
Ce corps ? Racheté ? La fosse commune ? Que dites-vous là ?
Je dis que notre pauvre Arsène, arrêté hier à 8 heures du matin, a été jugé à 2 heures de l'après-midi et exécuté à 4 heures.
J'en doute. J'ai soupé, j'ai valsé, j'ai couché avec elle cette nuit.
Alors c'est un cas étrange que je consignerai dans les annales de la médecine.
Je vous dément. Cela est impossible.
Vous dites cela à moi, le médecin des prisons ? À moi qui ai tout fait pour la sauver ? À moi qui lui ai dit adieu au pied de la charrette ?
Alors le médecin étendit le bras, pressa le petit ressort en diamant qui servait d'agrafe au collier de velours et tira le velours à lui. Hoffmann poussa un cri terrible. Cessant d'être maintenu par le seul lien qui la reliait aux épaules, la tête de la suppliciée roula du lit à terre et ne s'arrêta qu'aux souliers d'Hoffmann. Le jeune homme fit un bond en arrière et se précipita par les escaliers en hurlant
« Je suis fou ! Je suis fou ! Je suis fou ! »
À cette époque, on ne courait pas longtemps dans les rues de Paris, sans dire pourquoi l'on courait. On arrêta donc Hoffmann. Là, il comprit le véritable danger. Certains le tenaient pour un aristocrate prenant sa course afin de gagner plus vite la frontière. D'autres criaient « Au tribunal révolutionnaire !» Ce qui n'était pas gai. Alors, Hoffmann essaya d'expliquer ce qui lui était arrivé depuis la veille au soir. Il raconta tout. Du jeu à la macabre découverte d'Arsène décapité. Les plus fanatiques de la vérité crièrent au mensonge, les plus modérés crièrent à la folie.
Eh bien, cherchons l'hôtel. On ne trouvera peut-être plus l'or, mais on trouvera la femme.
Mais Hoffmann eut beau chercher, il ne trouva rien qui lui rappela l'hôtel où il était entré la veille. Comme ces palais féeriques qui s'évanouissent quand on n'a plus besoin d'eux, l'hôtel de la rue Saint-Honoré avait disparu. Puisqu'on ne retrouvait plus le corps d'Arsène, il était fortement question d'arrêter Hoffmann. Quand tout à coup, celui-ci aperçut dans la rue le petit homme noir et l'appela à son secours. La voix d'un médecin a toujours une grande autorité sur la foule. Celui-ci déclina sa profession et on le laissa s'approcher d'Hoffmann.
Ah, pauvre jeune homme.
Et il lui prit la main sous prétexte de lui tâter le pouls.
Il s'est donc échappé.
Échappé d'où ?
Échappé de quoi ?
Oui, échappé d'où ?
Parbleu ! Échappé de l'hospice des fous.
Ah, docteur, pas de plaisanterie.
Le pauvre diable. Il aura perdu sur l'échafaud quelques femmes qu'il aimait.
Oui, oui, je l'aimais bien, mais pas comme Antonia, cependant.
Pauvre garçon.
Oui, depuis ce temps, il est en proie à une hallucination terrible. Il croit jouer, il croit gagner, puis avec son or, il court les rues, puis...
Puis il rencontre une femme au pied de la guillotine qui l'emmène dans un magnifique palais où il passe la nuit à boire, à chanter, à faire de la musique avec elle. Après quoi, il la trouve morte. N'est-ce pas ce qu'il vous a raconté ?
Oui. Oui, mot pour mot.
Mes amis, vous êtes bien convaincus maintenant. Faites avancer un fiacre afin que je le reconduise.
Où cela ? Où voulez-vous me reconduire ?
Où ? À la maison de fou, mon bon ami.
Laissez-vous faire, morbleu. Je ne réponds pas de vous.
Au palais Égalité, le docteur fit arrêter le fiacre.
Adieu, jeune homme. Et si vous m'en croyez, partez pour l'Allemagne le plus vite possible. Il ne fait pas bon en France pour les hommes qui ont une imagination comme la vôtre.
Et il poussa hors du fiacre Hoffmann, qui, tout abasourdi encore de ce qui venait de lui arriver, s'en allait tout droit sous une charrette, si un jeune homme qui passait ne se fût précipité et ne l'eût retenu dans ses bras. Les deux jeunes gens poussèrent ensemble un seul et même cri.
« Hoffmann !
Werner ! »
Hoffmann s'échappa des bras de Zacharias en lui criant
« Attends-moi !»
et s'élança vers la boutique du changeur.
« Ah, c'est vous, mon jeune compatriote. Je vous l'avoue, je ne comptais pas vous revoir. »
« Comment cela ? N'avez-vous plus mon médaillon ?»«
Si, je vous avais promis de vous le garder. » Jamais le médaillon ne serait sorti de ma boutique.
Voilà les 3 louis.
Et le changeur lui rendit le médaillon.
Merci, monsieur. Et maintenant, je vais retourner à Mannheim.
Tiens, vous êtes de Mannheim.
Ma fiancée est à Mannheim. Elle m'attend et j'y retourne pour l'épouser.
Connaissez-vous un vieil ami à moi, chef d'orchestre ?
Nommé Gottlieb Mür.
Vous le connaissez ?
Si je le connais. Je le crois bien puisque c'est sa fille qui est ma fiancée.
Comment, jeune homme ? C'est pour épouser Antonia que vous retourniez à Mannheim ?
Sans doute.
Restez à Paris alors, car vous feriez un voyage inutile.
Pourquoi cela ?
Parce que j'ai reçu une lettre de son père qui m'annonce qu'il y a 8 jours, à 3 heures de l'après-midi, Antonia est morte en jouant de la harpe.
C'était juste le jour où Hoffmann était allé chez Arsène pour faire son portrait. C'était juste l'heure où il avait pressé de ses lèvres son épaule nue. Hoffmann, anéanti, ouvrit le médaillon pour porter l'image d'Antonia à ses lèvres. Mais l'ivoire en était redevenu aussi blanc et aussi pur que s'il était vierge encore du pinceau de l'artiste. D'Antonia, il ne restait rien à Hoffmann, deux fois infidèle à son serment. Peu après, Hoffmann, accompagné de Zacharias Werner et du bon changeur, montait dans la voiture de Mannheim, où il arriva juste pour escorter au cimetière le corps de Gottlieb Mür, qui avait recommandé en mourant qu'on l'enterrât à côté de sa chère Antonia.
C'était « La femme au collier de velours » de Alexandre Dumas. Montage du texte, Pauline Ouvrard. Avec Gabriel Dufay, le narrateur, Antoine Louvard, Hoffmann, Julien Drillon, Zacharias Werner, Jean-Paul Farré, Gottlieb Mür, Rebecca Stella, Antonia, Olivier Broche, le docteur, Léonie Pinjot, Arsène, François Perrache, le changeur, Daniel Krellenstein, le croupier. Et Omblin de la Tessonnière, Jean-Christophe Frech, Sophie Bezard, Jean-Marc Laillé, Evelyne Guimara, David Laborie, Élodie Vincent. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Équipe de réalisation, Pierrick Charles, Nicolas Slimani, Louise Loubrieux, Jean-Mathieu Zande.